Juste après une visite de Charles de Gaulle en Martinique, le pouvoir gaulliste en avait longtemps fait une arme de propagande outre-mer. Le journal s'était aussi fait une spécialité des sujets racoleurs, mais même ses adversaires en étaient venus à le défendre au nom du pluralisme. France Antille employait 235 salariés. Seuls les trois radios du groupe ont trouvé un repreneur. Le journal papier, lui, est bel et bien mort.
Sébastien Gédor, un mot du tennis à Melbourne. Le parcours de Roger Federer s'est arrêté en demi-finale, battu ce matin en 3-7 par Novak Djokovic. Enfin, séance à la baisse à la Bourse de Paris, moins 1,4%.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous écoutez Radio G et tout de suite, c'est l'oreille curieuse. Bienvenue dans la quotidienne culturelle et locale. Ce soir, je vous propose de voyager avec l'itinéraire culturel du Sahara à Madagascar. Cet événement aura lieu du 4 au 14 février à la Maison du Lac à Angers, avec la maison de quartier du Lac de Maine. Et vous y verrez des expositions, soirées, conférences, il y aura des repas aussi. Plein de choses qu'on va découvrir ensemble. C'est organisé par les associations Anjou Madagascar et les Petits Princes des Sables. Et on va en parler dès le début de cette émission. Ensuite, nous sommes jeudi et comme un jeudi sur deux, on retrouvera Benoît pour la chronique Science, Nature et Environnement. Il nous parlera de la recherche et de quelques propositions de sortie. Vous connaissez le programme des 40 prochaines minutes, si vous voulez bien rester avec nous bien sûr. Et comme chaque soir, c'est Annelie au micro, à tout de suite. Alors comme je vous le disais en introduction, on débute cette émission avec un itinéraire culturel, je crois que c'est le vrai nom, qui nous emmène de Sahara à Madagascar. Et pour en parler, je reçois Rémi de la maison de quartier du Lac de Maine. Bonsoir Rémi.
Bonsoir.
Et vous êtes chargé d'animation.
Exactement.
Et c'est cette maison de quartier qui accueille tous les événements de l'itinéraire culturel.
Voilà, oui, on accueille notamment deux associations qu'on a rencontré, donc Anjou Madagascar et l'association Les Petits Princes des Sables.
Alors justement, pour Anjou Madagascar, il y a Tine Radisson, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes le vice-président de l'association.
Exactement.
Et enfin, il y a Joseph Franc, bonsoir.
Bonsoir.
Pour l'association Les Petits Princes des Sables, dont vous êtes le président.
Absolument.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Alors, c'est un itinéraire culturel que vous avez co-organisé, co-imaginé ensemble. J'en ai parlé un petit peu, il y a plusieurs événements, plusieurs choses qu'on pourra voir. Avant de parler du programme dans le détail, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les activités de vos associations, Anjou Madagascar particulièrement et les Petits Princes des Sables. On peut dire que c'est de la solidarité internationale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous faites ?
Oui, exactement. Donc, Anjou Madagascar, c'est une association angevine qui va bientôt fêter ses 20 années d'existence. Mmh. Et c'est une association qui a, on va dire, trois objectifs. Globalement, c'est pour aider donc Madagascar à conduire son développement économique, social, humain, et puis c'est à long terme. Le deuxième objectif, c'est de créer dans la région où nous intervenons, parce que donc nous accompagnons trois régions qui s'appellent Manandoun, Sahanvout et Vinankaren, qui se trouvent à 200 km en partant d'Antananarivo, qui est donc la capitale, en allant vers le sud. Mmh. Et donc, je disais tout à l'heure, donc c'est pour créer dans cette région un mouvement porteur responsable, capable d'entraîner un développement général au milieu, général du milieu, et puis une force locale d'autant de développement. Et puis le troisième objectif, c'est aussi de faire connaître Madagascar et tisser les liens entre ici en Anjou, les Pays de la Loire aussi, ouais, et puis donc cette région à laquelle nous intervenons. Juste pour dire quelques exemples, donc, où nous accompagnons nos compatriotes là-bas dans plusieurs domaines, dans l'éducation, la santé, l'agriculture, microcrédit et ainsi de suite.
Ouais, plein de choses pour faire du lien entre Madagascar, l'Anjou. Il y a aussi beaucoup de partenaires que vous avez là-bas, des partenaires malgaches pour travailler avec vous.
Oui, bah, en fait, nous travaillons avec une association partenaire dans chaque village. Et tout ce qui est projet ou demande de projet, donc c'est nos partenaires qui mettent en place ces projets et qui nous envoient donc les projets. Donc ici, nous avons plusieurs commissions, tout comme dans les associations partenaires là-bas, quelques exemples, la commission en agriculture, la santé, et ainsi de suite. Et puis, une fois tous les projets arrivent ici, donc, au sein du conseil d'administration, où nous sommes 18, donc, nous étudions chaque projet. Et il faut dire que, une chose à laquelle nous tenons beaucoup, c'est que nous sommes pas du tout dans l'assistanat. Nous sommes dans un acte de partenariat, parce qu'il y a toujours, dans chaque projet, une participation, en fait, des bénéficiaires. Bien évidemment, il y a une grande part que nous participons, mais il faut qu'il y ait une conscience, entre guillemets, en fait, chez nos compatriotes, en disant que voilà, sur chaque projet, nous aussi, nous avons apporté nos petites pierres pour pouvoir élaborer ou pour pouvoir monter tous ces projets. Et une dernière chose, donc, depuis 2 ans, nous intervenons dans ces villages, surtout dans la construction de l'eau potable. Mmh. Dans plusieurs villages, là, donc, dernièrement, avec toute une habitation de 10 000 habitants, montage, donc, d'un projet d'eau potable à partir de la création de chercher de la source jusqu'aux bornes fontaines.
Plein de choses du côté d'Anjou Madagascar. Et alors, pour les petits princes des sables, vous, votre action, elle est autour de l'éducation?
Alors voilà, notre action, elle est autour de l'éducation. Nous essayons depuis 2003 de scolariser des enfants. Alors au départ, nous disions des enfants nomades Touareg au nord du Mali, dans une région que tout le monde connaît bien en ce moment, parce qu'elle est, c'est celle où se déploie actuellement la force Barkhane, avec toutes les difficultés que ça peut entraîner pour faire fonctionner une école.
On est au Sahel, au nord du Mali.
Voilà, dans le nord du Mali. Trois étapes, si vous voulez, pour résumer. En 2003, on a créé cette école dans un petit village qui s'appelle Taboy, qui est au bord du Niger. Et petit à petit, l'école s'est développée jusqu'en 2012, avec la particularité de cette école, un internat, puisque c'était des enfants de nomades Touareg. Et puis en 2012, sont arrivés les djihadistes qui nous ont chassés de cette école. L'école a été fermée, mais en 2012, il y avait quand même 120 élèves dans l'école et 70 à l'internat. Garçons et filles, à peu près
une école,
nombre équivalent. Donc en 2012, l'école est fermée, et il y a de gros mouvements de population dans le nord du Mali, beaucoup de réfugiés politiques, et quelques parents confient leurs enfants au directeur de l'école, qui va se réfugier pendant 4 ans à Ouagadougou, avec 25 élèves, et pendant 4 ans, il va assurer la continuité de la scolarisation de ses enfants, avec beaucoup de difficultés, parce que les enfants étaient très traumatisés par la situation de guerre, aucune nouvelle de leurs parents, mais bon, ils ont été pris en charge par le HCR, le Haut Comité aux réfugiés, ils avaient le statut de réfugiés politiques, etc. Ça s'est finalement bien passé. En 2017, on a pensé que ça allait se calmer, qu'on allait revenir à Taboy, on a réhabilité l'école à grands frais, et puis au dernier moment, on s'est aperçu que la sécurité n'était pas assurée. Alors, je ne veux pas parler de la sécurité maintenant, parce que ça serait trop long pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce problème. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de sécurité dans cette région, même pour les locaux. Donc le choix a été fait de créer une nouvelle école en plein désert. dans un endroit où il y avait quelques Touaregs. Moi, j'y suis allé la dernière fois en 2009, il y avait une quarantaine de personnes, mais il y en a aujourd'hui plus de 200 et dans quelques années, il y en aura 600. Donc là, on revient au mot initial, le mot de nomade. Les Touaregs ne sont guère plus nomades. Ils sont en train de se sédentariser pour toutes sortes de raisons
géopolitiques,
y compris des raisons climatiques.
Ouais, il y a plein de choses à évoquer sur cette thématique. Ce serait passionnant, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps de tout
absolument,
voir là-dessus.
Oui. Juste pour terminer, on a aujourd'hui dans cette école-là 83 élèves en primaire avec 3 instituteurs, plus le directeur. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que les 3 instituteurs sont tous les 3 d'anciens élèves de la toute première école de Taboy. Et ça, ça nous fait beaucoup chaud au cœur. Et on continue à suivre quelques collégiens, une douzaine qui sont dans une autre ville du Mali, et une douzaine de collégiens, lycéens et étudiants que l'on aide aussi à poursuivre leurs études. Donc au total, plus d'une centaine d'élèves. Mais on ne fait pas ça tout seul parce que nous, on est une petite association. Donc on est en collaboration, en partenariat avec 2 autres associations, une à Paris et une à Bordeaux.
Oui, c'est important de comprendre donc ce que font chacune de vos associations en Joue Madagascar et les petits princes des sables. Là, on vous retrouve car vous avez imaginé aussi avec la Maison du Lac cet itinéraire culturel, donc intitulé du Sahara à Madagascar. Ça va être 2 semaines, du 4 au 14 février, où on va pouvoir découvrir ces différentes cultures avec différents événements. Comment vous l'avez conçu? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pendant ces 2 semaines-là? Qui a envie de se jeter à l'eau, Rémi?
Du coup, pour la petite histoire, donc nous, on a rencontré un peu les 2 associations par l'intermédiaire d'habitants du quartier qui sont membres de ces 2 associations. Et du coup, au départ, on les a rencontrés sans savoir forcément ce qu'on allait faire, mais il y avait une envie de proposer quelque chose à la maison de quartier. Et on s'est rendu compte que les 2 associations avaient beaucoup de points communs, avaient la même envie de partager ce qu'ils font et la même envie de proposer une animation sur la maison de quartier. On a rapidement proposé un projet en commun, qu'on voulait alimenter à la fois avec des temps festifs, mais aussi des temps de découverte du pays et du contenu aussi des associations, enfin des différentes actions qui sont menées dans les associations. Et du coup, on a proposé aussi des temps de conférences. Donc on a 2 temps de conférences notamment là qui vont alimenter la première et la deuxième semaine. Donc le mardi 4 février, on a une conférence autour des Touaregs qui vont être montrés à travers Tintin. Puisqu'on a Joseph à côté de moi là qui est fan de Tintin. On a également un autre habitant du quartier qui est fan de Tintin et on trouvait le personnage intéressant pour parler de la culture Touareg.
Oui, parce que son regard sur les cultures à l'époque n'est pas toujours très simple.
Oui, alors je précise quand même qu'il n'y a pas de Touareg dans les albums de Tintin, mais il y a des hommes du désert. Et donc, si vous venez à la conférence, vous verrez comment on passe des hommes du désert aux Touareg.
Oui, c'est un angle assez singulier, en tout cas pour parler des Touareg d'aujourd'hui.
C'est une accroche un peu sympathique.
Très bien. Ouais, donc ça,
c'est le mardi 4 à 19h.
Ouais.
Voilà, et on aura la deuxième semaine une autre conférence où là, on va plutôt rassembler les 2 associations. Donc on l'a appelé Amaniman. Ce qui veut dire, hein, Joseph, c'est l'eau, c'est la vie.
L'eau, c'est la vie. C'est la langue des Touaregs qui s'appelle le Tamashek.
Très bien, nous apprenons un peu le Tamashek.
Donc le but, c'est de lancer un peu un débat, enfin des échanges autour de la question de la recherche de l'eau, notamment, qui est un des sujets importants dans les 2 associations, et comment cette recherche de l'eau influe après sur la scolarisation, sur la santé, et comment ils peuvent intervenir dans ces associations autour de ces questions-là. Donc ça, c'est le mardi 11 février à 19h aussi.
Nous avons appelé les 3 enjeux majeurs dans les pays en voie de développement.
Voilà.
C'est-à-dire la recherche de l'eau, l'éducation et la santé.
Ouais, qui sont fondamentales pour construire quoi que ce soit d'autre.
Exactement. Et c'est là où on s'est effectivement retrouvés petit à petit quand on s'est rencontrés pour monter ce projet.
Est-ce que c'est la première fois que vos 2 associations travaillent ensemble?
C'est la première fois.
Qu'on travaille ensemble, oui. Ouais. Moi, on se connaît un peu ou d'autres membres, mais qu'on travaille ensemble, oui.
Donc là, on a parlé des 2 conférences. Il y a aussi 2 moments importants qui sont les expositions qui viennent vraiment rythmer cette quinzaine. Alors, on a une première exposition sur la culture Touareg du 4 au 8 février. Et ensuite, du 11 au 14, on part à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'on y verra, est-ce que vous savez déjà?
Alors oui, mais puisqu'on va commencer par nous, je commence. Essentiellement d'abord des photos. des photos qui auront été prises par nous, les membres de l'association, lors de nos précédents voyages, et qui vont illustrer un petit peu la vie quotidienne, autrefois sous la tente, et puis un certain nombre d'objets qu'on a rassemblés, qui vont montrer aussi un petit peu les objets de la vie quotidienne des Touaregs. Deux mannequins de deux Touaregs en grande tenue pour expliquer aux visiteurs et aux enfants qu'on recevra un petit peu le comment et le pourquoi du costume des Touaregs. Et puis voilà, c'est l'essentiel, photos.
C'est une porte d'entrée vers
objets, voilà.
La culture.
Alors, quelqu'un m'a demandé s'il y aurait un chameau. Il n'y aura pas de chameau, c'est un petit peu difficile de déplacer un chameau.
Et puis, il n'a pas que ça à faire de rester une semaine à la maison de quartier.
À côté de la maison de quartier, il n'y aura pas de chameau. Mais voilà.
C'est bien pour le chameau. Et pour l'exposition autour de Madagascar, alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, Tine, ce que vous avez imaginé ?
Oui, ça sera sur, deux volets. Mm-hmm. Le premier volet, ça sera présentation de Madagascar. Et voyage à Madagascar à travers les images, tout ce qui est paysage. Là, c'est exposition en photo. Et le deuxième volet, bien évidemment, donc ça sera sur l'association Jeux Madagascar, sur les actions qui ont été menées et probablement sur les actions à venir. Et puis, il faut dire que toutes les photos qu'on va exposer, surtout pour la partie sur l'association, ce sont les gens, membres de l'association, qui les ont prises donc, dans nos trois villages auxquels nous accompagnons.
Mmh.
Et, le samedi, donc après, avant la soirée festive, à 18h, il va y avoir donc, des ventes. Des expositions et ventes également d'artisanat tout Touareg, on va dire.
Un petit peu Touareg
et puis vente d'artisanat malgache.
Ça me fait une très belle perche pour parler aussi d'un moment important dans cette quinzaine culturelle, donc du Sahara à Madagascar. C'est une soirée festive. Ce sera samedi 8 février à partir de 19h. Donc là, on a un repas et également des artistes qui viennent jouer de la musique. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre, Rémi ?
Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que ça marche beaucoup parce qu'on est déjà complet dans la soirée,
mince.
Malheureusement. Voilà, mais on peut quand même venir au démarrage, je pense, pour la partie, comme disait Tine, pour la partie artisanat, et puis peut-être pour la partie dansante, mais bon, il y a déjà plus de 90 inscrits, donc pour la salle, c'est compliqué.
C'est
malheureusement, c'est que ça fonctionne bien, au contraire. Donc il y aura notamment cette soirée, un repas qui mélangera un peu les mets des deux pays, et il y aura également un duo musical qui s'appelle Bézizo, donc c'est un duo malgache, l'instrument, tu peux me redire le...
C'est un couple malgache donc qui joue avec des instruments typiques de Madagascar qui s'appelle le vali, où il y a plusieurs formes donc il faut venir pour pouvoir admirer et puis écouter, il faut avoir sa place.
Et puis il y aura également le groupe Benkagi qui va venir jouer en deuxième partie, donc là qui est plutôt musique africaine, un peu percussion
dansante
africaine.
Et pour venir aux conférences, est-ce qu'il faut réserver ? Est-ce qu'il suffit de venir sur place à la maison du lac ?
Pour les conférences, vous pouvez venir sur place directement.
Ouais.
On accueillera tout le monde, on fera de la place.
Je peux dire un petit mot sur les conférences, autant pour mon voisin que pour moi, il l'a évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas des conférences de niveau universitaire, c'est comme il l'a dit lui-même, c'est plutôt des témoignages à travers nos associations de ce que l'on a vu, rencontré, écouté, même goûté, ressenti une pleine nuit dans le désert. Ça sera sous cet angle-là.
Oui, il y a plein de choses à dire. Vous vouliez ajouter quelque chose, Tine ? Parce qu'effectivement, on a l'horloge qui défile.
Si je peux me permettre pour l'avenir,
oui.
Je profite un petit peu de l'antenne pour dire que si les auditeurs souhaitent connaître davantage l'association Anjou Madagascar, il ne faut pas hésiter à aller sur le site anjou-madagascar.org. Et d'ores et déjà, les auditeurs ou les Angevins peuvent déjà réserver la date du 8 au 11 octobre 2020. Nous serons présents au Salon Kurnanski, c'est l'ancienne salle Welcome, pour les 20 ans de l'association et pour le 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, où il va y avoir plein de choses, des expositions, conférences, animations musicales, défilés de mode et ainsi de suite.
Un anniversaire à fêter.
Et nous avons juste un site, une page Facebook qu'il suffit d'aller voir sur Les Petits Princes des Sables. Et vous trouverez toutes les coordonnées et des photos aussi.
Je mettrai tout en lien sur le podcast de l'émission, sur le site de Radio G. On n'a pas parlé des petits déjeuners aussi.
Alors voilà, ça peut être juste dire que on parlait d'exposition tout à l'heure. Ouais. Alors ce qui peut être intéressant, c'est aussi de venir voir l'exposition commenter. Mm-hmm. Parce qu'on va avoir les personnes qui ont installé l'exposition vont pouvoir la commenter le vendredi à la fois le 4 pour la partie Touareg. Elle sera commentée donc à chaque fois après notre petit déjeuner de quartier qui a lieu toujours nous de 8h30 à 10h.
Ouais.
Et donc à la suite du petit déjeuner, il y aura visite et commentaires donc le vendredi 7 février avec un petit déj du désert et le vendredi 14 avec un petit déjeuner exotique. Voilà, donc là c'est ouvert à tout le monde aussi.
Et tout ça est gratuit, c'est 50 centimes le petit déjeuner, voilà. Mais sinon tout est ouvert. Merci beaucoup, je pense que vous avez toutes les informations pour venir à cette quinzaine culturelle, donc du Sahara à Madagascar, qui se déroule à la maison de quartier du lac de Maine. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci, merci à vous, merci pour votre accueil.
Merci.
Et on va écouter un artiste malgache et du Maine-et-Loire, c'est Damil. Si ça vous parle, et oui j'ai choisi exprès, et c'est Fiena Sarotsi, ou Sarotsi.
We yeah, we yeah. Ça vous tient les pieds d'abord.
Terrible, mais je dois reprendre la parole avant la fin de ce morceau de Damil, car sinon nous allons être complètement en retard. Vous écoutez L'Oreille Curieuse sur le 101.5 de Radio G. Et après avoir parlé de cet itinéraire culturel du Sahara à Madagascar, on va maintenant retrouver Benoît pour parler science, nature et environnement. Salut Benoît.
Salut Annie, bonsoir à tous.
Comment ça va?
Ça va bien.
Super.
Alors, il fait doux, c'est bien.
Il fait doux.
Un peu humide.
Un peu nuageux, mais c'est pas grave. Qu'as-tu ramené dans ta chronique science, nature, environnement ce soir ?
Ben, des quelques infos locales déjà, avec un petit agenda, et puis de quelques infos scientifiques aussi. Juste une remarque, j'ai vu dans la presse, alors j'ai pas eu le temps de creuser, mais c'est une nouvelle qui m'a paru intéressante à signaler. On aurait, enfin c'est pas on aurait, c'est il a été observé, un loup en Charente.
C'est pas très
donc,
loin.
Donc c'est pas très loin d'ici, et voilà, les loups se promènent.
Oui, parce qu'il nous. Est sans doute pas tout seul.
Ah bah celui-là, si, sûrement, en fait, les loups, quand ils sont jeunes, à un moment donné, ils sont rejetés par la meute, c'est des choses qui peuvent arriver, et du coup, ils s'en vont. Et là, par contre, ils peuvent marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Jusqu'en Charente.
Plusieurs centaines de kilomètres, donc voilà. Alors, a priori, d'après ce que j'ai lu, celui-là viendrait d'Auvergne.
Ok, bon, un loup
donc,
voyageur.
Voilà, affaire à suivre. Bientôt, on va devoir faire attention en sortant le soir.
Oui, bon, ça va, on a un peu de marge.
Ouais. Autre point, enfin autre info, là pour le coup c'est une info visible et concrète, hein, même si, alors le loup c'est concret mais il est difficile à voir. Là il y a un documentaire qui a été tourné ces 2 ou 3 dernières années autour des basses vallées angevines qui sort et il y a toute une série de projections à Angers et autour d'Angers, dans la région des basses vallées angevines d'ailleurs. Donc c'est un documentaire réalisé par Alejandro Gamero et José Saudubois. Donc l'idée c'est de porter un regard un nouveau sur ce territoire, hein, qui est vraiment proche d'Angers, un peu au nord, un peu au sud, qu'on appelle les basses vallées angevines, territoire sur lequel il faut constamment trouver un équilibre entre les activités humaines, hein, et puis la nature, qui est riche encore, avec une biodiversité intéressante. Sur ces zones humides. Donc, les projections, il y en a une vendredi prochain, le 31, donc c'est demain.
Ouais.
À 20h15, au cinéma Pathé, ouais. Donc à Saint-Serge. Donc, et c'est dans le cadre des Journées mondiales des zones humides. Donc, ils sont organisés comme tous les ans par l'association Pégase. Alors, Pégase, c'est les étudiants en master. Il y a un master zone humide à la fac d'Angers.
Incroyable.
Et donc, ils organisent cette projection. C'est ouvert au grand public et gratuit. Donc, c'est 20h15 au cinéma de Saint-Serge.
Au Pathé. Et c'est complètement gratuit. Super.
Ouais, c'est complètement gratuit. Donc, c'est vraiment sympa. Non, je crois. Ça devrait être en présence des réalisateurs. Mmh. Une prochaine, si vous ratez la projection de vendredi, une autre aura lieu le 21 février à Juvardeil, donc c'est pareil, ouvert au grand public, le 28 février à Briolet, donc là on est au cœur des BVA.
Basse-Vallée Angevine pour les intimes.
Ouais, Basse-Vallée Angevine, pardon. et puis le 6 mars à La Flèche, et oui parce que le Loir étant là-bas, voilà, ça peut toucher du public aussi là-bas. Ainsi que le 2 avril à Soucel, là on revient près d'Angers, donc qui est une commune de la grosse commune Rive du Loir en Anjou. Voilà, c'est regroupé avec Villevêque. Donc allez voir ce documentaire, ouais. Par curiosité et pour apprendre des choses sur notre territoire.
Et aller ensuite se balader.
Exactement, c'est vraiment des territoires accessibles qu'on peut parcourir à pied, il y a des en vélo aussi, enfin c'est sympa.
C'est plutôt chouette.
Prenez les jumelles aussi pour faire l'ornitho, observer les oiseaux.
Les oiseaux,
c'est pas mal.
Les insectes,
ouais.
Les fleurs.
C'est ça. On peut faire la botanique aussi, il
n'y
a pas de souci. Autre info, agenda, donc c'est très bientôt la semaine prochaine, le 5 février, une conférence organisée par Terre des Sciences, la Maison de l'Environnement, à l'Institut Municipal, donc mercredi prochain. Obésité, que savons-nous, où allons-nous? Voilà, tout un programme.
Ouais.
Donc, juste en préambule, on peut signaler que l'obésité cause 2,8 millions de décès par an dans le monde. Que les causes sont multifactorielles. Hein, voilà, il y a la génétique, il y a nos modes de vie, il y a l'environnement, enfin, il y a plein de choses. C'est une conférence qui sera animée par Soazig Lollet, donc qui est chargée de recherche à l'INSERM à l'Université d'Angers. Donc, elle est spécialiste de ce problème. On peut dire alimentaire ou pas, ou génétique, ça dépend. Mais
ça
en
dépend,
tout cas,
ouais. Et puis il y a plein de questions. C'est bien pour en savoir plus.
Exactement. Donc c'est une conférence débat. Vous pourrez poser toutes les questions possibles. Donc c'est à l'Institut Municipal mercredi prochain à 19h30.
Très bien, c'est noté.
Voilà. Enfin, dernière petite info. Alors, ça change un peu. je vous propose une table ronde intitulée « Le futur de l'humanité en BD ».
Ok.
Voilà, donc ça a lieu le 7 février, donc c'est la semaine prochaine, à 19h à la médiathèque de Mazé.
Ouais.
Médiathèque qui s'appelle La Bulle. Alors je pense qu'ils ont une grosse spécialité en BD. Et
puis on a une année très BD, je crois, en France, okay. En 2020.
Donc ouais. Voilà, l'idée c'est d'organiser cette petite rencontre à la fois sur le thème de la BD, mais de la science, en présence de Ludovic de Burm, qui est auteur de bande dessinée, mais aussi de Guy Lenners et Dominique Bonneau, qui sont généticiens.
Génial.
Ainsi qu'il y a un historien, Vincent Guérin, qui est docteur en histoire contemporaine. Donc le thème, c'est le futur de l'humanité en BD. Donc voilà, hein, les robots, clones, cyborgs, tout ça. Organismes génétiquement modifiés, compagnie, bouleversement écologique.
Ouais.
Voilà, la totale. Sympa, il faut réserver parce que le nombre de places est limité, mais c'est gratuit.
Ouais, et c'est à Mazé vendredi prochain, le 7.
Ouais, le 7 février.
Ok.
Voilà, retour dans l'actualité maintenant.
Ouais.
L'actualité de la santé. Alors tu devines de quoi je vais parler ?
De tout, de virus,
ouais,
d'une peur mondiale.
Donc voilà, alors tu as remarqué que dans tous les reportages qu'on voit et tout, on voit des gens donc avec des masques.
Oui.
Ils portent tous des masques, alors...
Pour le coronavirus.
C'est ça. Mais les masques, à quoi ça sert ? Comment peuvent-ils nous rendre service ? D'ailleurs, rendent-ils service ? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Donc évidemment, les autorités des lieux touchés, notamment la ville de Wuhan en Chine et puis la région, les autorités invitent à porter des masques chirurgicaux. Hein, mais est-ce que ça fonctionne vraiment bien ? Alors, bon, les spécialistes sont à peu près d'accord pour dire que s'ils sont bien utilisés, portés correctement, ça peut aider.
Ça limite les transmissions.
Alors voilà, mais il n'y a quand même pas beaucoup de preuves et d'études scientifiques sur l'utilité et l'efficacité de ces masques, en dehors des établissements de santé. Parce qu'évidemment, c'est les personnes les plus à proximité sont les personnels des établissements de santé qui doivent les porter et de manière assez stricte.
Oui, encadrés, qui ont des formations, qui savent comment faire.
Par contre, dans la rue, bon, l'idée, globalement, il faut dire que déjà, ces masques sont rarement étanches.
Oui.
Et le virus en question se propage par des fines gouttelettes, en fait, qui sortent de nos muqueuses, hein, puisque lui, le virus, il se développe dans les muqueuses. Pas sur la peau, par exemple, mm-hmm. mais dans les muqueuses du nez, des yeux, de la bouche, la gorge. Et évidemment, quand on tousse, quand on éternue, quand on approche ses mains du visage, c'est un geste qu'on fait très souvent, de manière tout à fait inconsciente, mais plusieurs dizaines de fois par minute, on touche notre visage sans s'en rendre compte. Donc voilà, tous ces gestes contribuent à la propagation du virus. Donc si on porte un masque, idéalement, il faudrait qu'il soit étanche, et puis qu'on ne l'enlève pas.
Et qu'on le change peut-être régulièrement.
Et qu'on le change aussi. Alors, les gens qui devraient vraiment en priorité porter le masque sont les porteurs du virus, bien entendu. Puisque c'est à la sortie qu'ils peuvent... c'est le cas normalement. En tout cas, les malades qui sont déclarés sont en milieu hospitalisé et sont contrôlés, en fait. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des grosses gouttes qui sortent des muqueuses et qui portent le virus sont arrêtées par le masque quand il est correctement porté. Maintenant, la chose la plus importante à faire pour ça, c'est bien sûr régulièrement se laver les mains.
Ouais. Et ça marche aussi pour la grippe, pour la gastro.
Ça marche pour tous les virus,
tout ce qu'on veut.
Tout ce qui attaque la sphère ORL en termes de virus, ça marche.
Ouais.
Donc c'est très important de bien se laver les mains. Parce qu'on se gratte tout le temps le visage, machin, on se serre les mains, on touche les poignées de porte. Enfin, faut pas être paranoïaque non plus, mais il faut éternuer aussi, pas dans ses mains, dans ses coudes. Sauf si on est tout seul dans la nature, mais bon, bref. Voilà, il y a des mesures de protection à prendre. Alors, le masque, efficace ou pas, bon, peut-être. C'est pas forcément mauvais de le porter, de toute façon, il n'y a aucun impact. Mais bon, il y a ne pas toucher son visage, bien se laver les mains avec à l'eau savonneuse. Il y a aussi des solutions hydroalcooliques. Et puis, normalement, ça va. Quoi. On rappelle, hein, le virus, il n'infecte pas la peau. Hein. Il ne s'attaque pas à la peau. Hein. C'est vraiment les muqueuses, le nez, les yeux et la bouche.
Est-ce qu'il peut survivre dans l'air ?
Sûrement, mais sans doute quelques minutes, quelques dizaines de minutes. J'ai pas la réponse, mais évidemment pas très longtemps. Et encore, ça dépendra du milieu. Si c'est un air très sec, il va sûrement survivre moins longtemps. Et dans un air humide, il pourra survivre plus longtemps.
Bon, en tout cas, se laver les mains, même si on n'est pas trop inquiet du coronavirus, c'est bien.
Ouais, de toute façon, c'est une mesure de base. Parce que il y a d'autres virus qui se battent en ce moment.
Qui sont très proches de nous, qu'on
connaît
bien.
Voilà, ouais, voilà, donc c'est pas mal. On va parler d'un autre sujet pour terminer ce soir. Maintenant, on va rester dans la sphère ORL, j'ai envie de dire. On va parler du hockey. Alors, figure-toi, on n'est pas du tout dans l'actualité, mais j'ai une info à partager avec le hockey. Alors, c'est assez... j'ai trouvé ça pas mal à faire partager aux auditeurs. Donc, alors je vais commencer par un exercice qui est un peu fastidieux. C'est, je vais lire la vraie définition du hockey.
Ouais, le hockey sur glace.
Non.
Ah, le hockey. Ah
oui. Alors oui. Bonne explication. Le hockey. H O Q U E T. Oui. En rapport avec la bouche. De hockey. Ouais, c'est ça.
Très bien.
Donc, alors en physiologie, le hockey peut s'appeler aussi la myoclonie phrénoglottique. Tu vois, bon.
Je dis ça pour frimer.
Donc c'est un réflexe ventilatoire caractérisé par une succession de contractions inspiratoires spasmodiques, incontrôlables et involontaires. Tu as déjà expérimenté le hockey, comme tout le monde.
Oui.
Contractions inspiratoires des muscles inspiratoires. Donc ces muscles sont notamment le diaphragme, le muscle intercostal externe, et il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Donc, et cette contraction est concomitante d'une inhibition des muscles expiratoire, donc tu vois, inspirer, expirer, suivi 35 millisecondes plus tard d'une constriction de la glotte. Donc la glotte se referme, ça se referme. L'arrivée d'air est alors freinée, a du mal à pénétrer dans la trachée et les poumons, ce qui provoque une gêne et une vibration des cordes vocales au niveau de l'épiglotte. Donc c'est le bruit qu'on fait quand on a le hockey. Ok, par la définition.
Je n'ai jamais vu un hockey si précis.
Bon, alors, d'où ça vient ce truc? Alors, bon, chez les mammifères, donc comme l'homme, ce sont les nerfs phréniques qui contrôlent les mouvements de la respiration. Mm-hmm. Et ces nerfs ne partent pas des vertèbres à la hauteur du diaphragme, donc ça serait plutôt au milieu du thorax, mais ils partent de la base du crâne. Le nerf, il vient de la branche antérieure du quatrième nerf cervical et il se dirige dans un trajet un peu compliqué jusqu'au nerf, jusqu'au muscle du diaphragme. Et donc, c'est pas un trajet simple, en fait.
Ouais.
Alors, il passe du coup dans le thorax et il se termine sur le diaphragme. Alors, ce trajet compliqué, en fait, il est hérité de nos lointains ancêtres, à l'époque, un groupe qu'on appelle les sarcoptérygiens, dont on fait partie.
Qui sont ces êtres?
Alors, les sarcoptérygiens, c'est le groupe qui comprend, alors aujourd'hui, dans les représentants actuels, les sélacanthes, donc ça c'est un poisson, un très vieux poisson.
Oui, on est sur des très 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 lointains ancêtres.
Les dipneustes, donc ça c'est les poissons qui ont des poumons.
Ok.
Ça arrive, il y a des petits poissons qui peuvent sortir. Et les tétrapodes, et ça les tétrapodes c'est nous tous, les mammifères, les oiseaux, ce qu'on appelait reptiles ou oiseaux, maintenant c'est la même chose, et les amphibiens, qui ont aussi un autre nom aujourd'hui, mais on va pas. Donc tout ça c'est les sarcoptérygiens. Et l'ancêtre commun à tous ces animaux-là, il avait cette chose, tout simplement puisque... c'est un animal qui respirait par ses branchies.
Ouais.
Et donc, d'un point de vue anatomique, c'était concordant, en fait. Aujourd'hui, un têtard de grenouille, qui utilise sa respiration branchiale, aspire de l'eau par sa bouche, tandis que la glotte se ferme, ce qui évite à l'eau de rentrer dans les poumons. Donc, il y avait une fonction au départ qui était vraiment liée à l'environnement. Mais chez nous, ces nerfs qui traversent la cage thoracique pour rejoindre le diaphragme, c'est un trajet complexe qui parfois irrite le nerf. Et donc, cette irritation est à l'origine du hockey. Alors, c'est un truc qu'on arrive quand on mange trop ou qu'on a une activité physique, après avoir trop mangé, on peut être gêné, et du coup, c'est lié à ça. Donc, en fait, c'est un héritage, cette chose-là, de nos ancêtres, dont les branchies étaient situées, par contre, à proximité du crâne.
Ouais.
Voilà. Donc il n'y a pas de signification adaptative ou évolutive d'avoir ça chez nous, mais c'est juste un héritage de choses anciennes.
De ça, donc, c'est câblé comme ça. Quoi.
Ouais, voilà. Donc tout ça pour dire que chaque trait de caractère de tout être vivant doit pas forcément être considéré comme une conséquence d'une adaptation à quelque chose. Voilà, c'est pas. Mais on est la résultante de multiples adaptations, mais aussi d'héritage phylogénétique de nos ancêtres. Donc, et en fonction des contraintes architecturales de notre anatomie, bah, il y a des choses parfois qui dysfonctionnent. Et l'exemple, c'est le hockey. J'ai trouvé ça super drôle de.
Ah bah, drôle, la prochaine fois que j'ai le hockey.
Ben ouais, ouais. Tu penseras à nos ancêtres, il y a 360 ouais. millions d'années. Qui pour chez eux, ce trajet servait, mais chez nous, notre corps a changé. Mais les nerfs, on était obligés de s'allonger et de prendre un petit chemin un peu complexe. Galérer. Voilà.
Et des fois, on a le hockey.
On pourrait appeler ça une inadaptation aussi. Maintenant, à rebrousse-poil.
Et on a des solutions pour quand
pour
on a le hockey,
non. Alors, les trucs faut classiques, attendre. C'est arrêter de respirer, être en apnée.
Pendant 20 minutes.
Se boucher le nez et faire de l'apnée pendant quelques secondes, 15-20 secondes. Des fois, ça suffit. Boire de l'eau en se bouchant le nez aussi.
Et en se renversant. Enfin, souvent, c'est des choses un peu...
Ah, en se renversant, ça, ouais. Je ne connaissais pas.
Ah, bah, si,
la c'est tête faut... à l'envers.
Ouais, la tête en bas.
Ah, donc, ok, essayer, mais jamais essayé. Pas évident à faire. Faut faire le poirier, peut-être, c'est ça.
Chacun trouve sa solution. Mais bon, c'est peut-être juste pour faire passer le... C'est peut-être juste dans sa tête.
Je sais pas.
Bon.
J'ai pas testé la méthode.
Ok. Merci beaucoup, Benoît.
À bientôt.
Ouais, dans 2 semaines. C'est la fin de l'émission et je rends l'antenne un petit peu en retard sur le jingle. On se retrouve lundi à 18h10 et nous serons avec le Festival des Éclectiques. D'ici là, si vous avez manqué une info, un son, quoi que ce soit, tout est en ligne sur le site de Radio G à la page de l'Oreille Curieuse. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end. Je vous laisse à 19h avec 3 devant et à 20h, ce sera Quasar on the Air. À lundi. Your fast food, more drugs, and be the finding what we got left. If there's a war inside, there's a war outside. And my mind won't break if my love won't take. It won't take no more. There's a war outside that no race is safe from. Being white's a new black. Self-hate's a new crack. What's the difference between us when we all want the same high? If there's a war outside, there's a war inside. And my mind won't break if my love it won't take it. One day, no more.
just when we discover that we need each other. Here our lives keep pulling us away. Now we're both so unstable at the kitchen table with these peanut bagels in a foreign state. Because the point is that I see it's not just me. The point is that you feel my company. I don't wanna say goodbye, guess I'll see you when my screen is vibrating. It's not just me. I know you're feeling the same way. Just decided I was so misguided that you'd all forget about me in time. That you remember it was New Year's Eve, sparklers to palace streets. We knew the years to change, we'd always feel the same. Because the point is, it's not just me. The point is that you feel my company. You know I'll never be too far. If you're looking for somebody, I'm here. It's not just me. I know you feel the same way. Under the carpet.
Radio G 101.5 FM.